Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour Mathilde.
Bonjour, installez-vous.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
Bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a une façon de fonctionner un petit peu particulière.
Comment ça se passe pour vous?
Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué.
Pire que compliqué.
Je me pose un peu des questions sur la façon d'éduquer ma fille.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Et très vite, elle a raconté comment elles avaient cherché, comment elles étaient tombées dessus, qu'elles avaient eu envie de voir, mais qu'en même temps, ça les avait dégoûtées.
Dans la première partie de ce nouvel épisode de Parentalité, dédié à la pornographie, je reçois dans mon cabinet Laetitia. Elle évoque avec nous comment sa fille a été confrontée très jeune à des images pornographiques et comment elle l'a accompagnée. Pour poursuivre la discussion et lui donner quelques pistes, nous accueillerons également Thomas Homer, spécialiste en protection de l'enfance et numérique. Bonjour Laetitia.
Bonjour Mathilde.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui?
Ma fille a été confrontée à de la pornographie très jeune, je voulais vous en parler.
Elle avait quel âge?
Elle avait 8 ans, à peu près. On avait comme façon de faire de lui interdire l'accès à nos téléphones portables et autres tablettes. Donc on était finalement peut-être peu préparé à ce qu'elle soit confrontée à des images pornographiques ou d'autres images violentes. Parce que en fait, elle avait très peu accès à nos appareils. Et puis un jour, on prenait l'apéro avec des amis qui avaient leur fille de l'âge exactement de ma fille. On les a laissés avec une tablette et un dessin animé sur la tablette. Et puis on a commencé à discuter entre copains. On a pris l'apéro, on a trouvé que nos filles étaient très sages, qu'elles venaient pas nous voir, qu'elles venaient étonnamment pas à nous solliciter. On s'est dit c'est cool, elles sont sympas ce soir. On a rigolé. Puis au bout d'une heure et demie, on s'est dit, bon, quand même, allons voir ce qui se passe. Rien de spécial, elles étaient avec toujours la tablette, toujours devant le dessin animé, rien ne nous a paru, sur le moment en tout cas, tout va bien, on est redescendu boire un coup, puis bon, peut-être un quart d'heure après, on a dit, bon, ça y est, nos amis partaient, et leur fille devait rester dormir à la maison, puis finalement, de façon très bizarre, elle ne voulait plus du tout. Donc bon, ils sont étonnés, ils s'en vont avec leur petite. Et puis le lendemain, la maman m'appelle absolument affolée, avec les pleurs dans la voix, et me dit « Est-ce que tu peux aller tout de suite voir sur la tablette que les filles ont utilisée hier ?» Regarde dans l'historique ce qu'elles ont regardé. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute, je viens de trouver ma fille avec notre tablette. Alors eux, ils lui laissaient plus accès facilement à leur iPad. Je voulais, entre guillemets, la choper en train de regarder sans mon accord un dessin animé. Elle est partie aux toilettes, elle a laissé la tablette sous l'oreiller. J'ai soulevé l'oreiller pensant être très maligne et de griller ma fille avec un dessin animé. Et cette maman, ma copine, tombe sur une femme faisant une fellation à un homme et se faisant prendre par derrière par un autre. Donc elle a été complètement dans tous ses états, elle m'appelle, elle me dit « Regarde ce qu'elles ont regardé hier, je comprends pas ce qui se passe, etc. » Je regarde l'historique et effectivement, je vois qu'elles ont passé une heure, certainement, à regarder YouPorn ou enfin voilà, plein d'occurrences très très violents en termes de sexualité. Et donc je remonte l'historique pour comprendre comment elles en sont arrivées là.
Et je me rends compte qu'elles avaient écrit, alors que ma fille savait pas écrire à l'époque, mais je pense que c'est elle qui a dicté et que l'autre a écrit, Zizi contre Zizi. Donc elles avaient une envie de comprendre, ça c'est certain, mais elles ne voulaient pas aller regarder du porno. Donc en fait, leur première occurrence qui leur a été proposée, c'était Titeuf, le zizi sexuel, voilà. Et après, c'est que du porno.
Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ?
Moi, je suis dégoûtée pour elle, parce que je sais la violence de ces images. Je me dis que elle a 8 ans, que c'est pas possible d'être confrontée à ça à 8 ans. Plus tard d'ailleurs non plus, à mon avis, avant très longtemps. Et si on en fait le choix, que ça lui est tombé dessus alors que c'est pas ce qu'elle cherchait. Pour moi, c'était affreux, d'autant que moi, j'étais avant avocate, je travaillais dans le 93 et j'étais spécialisée dans la défense des mineurs. Et j'ai eu à défendre des viols en tournante, et donc de jeunes garçons qui avaient été auteurs de viols. Et déjà, il y a 15 ans, une des réponses de ces enfants, c'était « c'est comme ça qu'on fait ». Je me rappelle à l'époque, passer des heures à expliquer à des mômes de 12 ans que non, c'était pas comme ça qu'on faisait l'amour. Que non, les filles n'aimaient pas qu'on leur tape dessus, n'aimaient pas qu'il y ait trois hommes qui passent les uns après les autres sur une fille et que si elles avaient pas dit oui, c'est qu'elles n'étaient pas consentantes. Donc, c'était mon travail. Donc, tout d'un coup, je vois ma propre fille confrontée à ces images-là, puisque en plus, maintenant, c'est bien pire qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire que l'offre est beaucoup plus importante. Et donc, moi, mon premier réflexe a été de parler avec ma fille. Immédiatement. Alors, évidemment, immédiatement, les deux enfants... Alors, on a fait ça, évidemment, séparément. Chaque mère dans son coin, avec des réponses différentes, puisque nos filles ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même éducation et les mêmes problématiques. L'avantage de ma fille, c'est qu'elle est très suivie depuis qu'elle est très jeune pour d'autres raisons et qu'elle est très habituée à s'exprimer et à dire ses émotions. Donc ça a été assez facile de dénouer ça avec elle, même si la première réponse de ma fille, c'était la peur d'avoir fait une bêtise. Évidemment, c'était se défendre, donc c'est pas moi, c'est l'autre, ne me dispute pas maman. J'étais absolument pas en plus en train de la disputer, donc, mais elle se rendait compte qu'elles avaient été voir quelque chose qu'elles n'avaient pas le droit de voir, elle le savait, puisque l'autre cachait sa tablette. Donc elle savait très bien qu'elle faisait quelque chose d'interdit. Elle comprenait pas vraiment pourquoi c'était interdit, pourquoi c'était pas comme ça, enfin bon. Donc j'ai expliqué. Ce qui était assez intéressant avec Anna, c'est que tout de suite elle a lâcher prise, très vite, et très vite, elle a raconté comment elles avaient cherché, comment elles étaient tombées dessus, qu'elles avaient eu envie de voir, mais qu'en même temps, ça les avait dégoûtées, et c'était une des raisons du départ incongru de l'autre gamine qui voulait plus dormir là, parce qu'elles ont été choquées, voilà. Sauf qu'elles ont quand même caché, c'est-à-dire que quand nous, on est montés plusieurs fois quand même les voir, à chaque fois, elles regardaient un dessin animé, donc elles savaient qu'elle faisait quelque chose qui n'allait pas. Elle se rendait compte que c'était quelque chose qui n'allait pas. Mais elles ont quand même voulu voir. Et elles n'avaient que 8 ans. Et elles ont été emportées totalement par ce qu'elles voyaient. Surtout qu'on sait tous comment ça fonctionne. On scrolle, et puis on a une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Donc elles ont fait ça. Elles ont fait comme on fait tous, c'est-à-dire j'en regarde un, j'en regarde deux, j'en regarde trois, et puis je rentre dans ce mouvement de pornographie. Donc moi, mes réponses, ce qui m'est sorti, parce qu'en fait, sur le moment, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. C'est-à-dire qu'on est confronté à quelque chose auquel on s'attend pas, parce que nous, elle était vraiment très à l'écart d'Internet, très surveillée, elle a pas le droit encore maintenant de toucher à mon téléphone sans mon accord. Donc, on pensait pas qu'elle pourrait être confrontée à ça. Vraiment. Mais c'est ça qui est horrible, parce que on a beau savoir, on a beau écouter, on a beau se renseigner, savoir qu'il faut protéger nos enfants, qu'il faut pas les laisser aller voir Internet. Mais on croit toujours que nous, ça ne nous arrivera pas. C'est vraiment l'expression, ça n'arrive qu'aux autres. Moi et mon mari, on est tous les deux avocats, on sait la dangerosité de ces images, on lit, on écoute, on se renseigne, voilà. Et ça arrive quand même à notre fille.
Est-ce que du coup, il y a eu chez vous un sentiment d'avoir échoué ou une forme d'échec, de ne pas avoir su protéger ? D'avoir été peut-être naïve et, malgré.
Évidemment. Alors l'information après, moi l'échec en tant que mère, je trouve que c'est un peu. Je trouve que c'est pas trop la question. Je trouve que la question c'est comment j'aurais pu faire autrement et comment je peux faire maintenant. Comment fait-on pour protéger nos enfants? Comment se fait-il que, même si on est très présent, il suffit d'une inattention, d'un jour on veut prendre un apéro et se dire que oh, bah, c'est bien facile de donner un dessin animé en toute naïveté à son enfant sur une tablette, en n'imaginant pas une seconde qu'il sait faire une recherche déjà. Je pense qu'il y a aussi un rapport pour notre génération, enfin moi j'ai 52 ans, je pense que jusqu'à 40 ans, on est un peu dans cette autre génération, on se rend pas compte quelle est la facilité pour les enfants de comprendre le fonctionnement d'Internet, des écrans, et que pour eux c'est hyper simple, parce que c'est intuitif, alors que nous on a dû l'apprendre. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, on peut pas s'imaginer, enfin moi en tout cas je pouvais pas m'imaginer que ma fille de 8 ans, d'ailleurs maintenant je vois que en fait elle, j'ai compris après qu'elle fait aussi en audio, parce que ma fille elle sait pas écrire, enfin ça fait très peu de temps qu'elle sait écrire, parce qu'elle avait du retard, donc je pouvais pas imaginer qu'elle pouvait faire une recherche sur Internet, mais en fait bah, y a un micro. Donc même s'il n'y a pas sa copine pour taper à sa place, elle peut dire Zizi contre Zizi et elle aura les mêmes réponses qu'elle a eues. Que même si c'est sous surveillance, c'est quand même facile de prendre l'apéro pendant que ses enfants regardent un dessin animé sur un écran. Voilà, donc on se laisse nous-mêmes prendre à ce jeu et on met nos enfants en danger. Sur les conséquences sur Anna, bon, alors nous on a beaucoup beaucoup débriefé.
Justement par rapport à ce débrief, est-ce que vous lui avez dit, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit?
Oui, je me souviens très bien parce que j'ai quand même été assez choquée moi-même. Je lui ai dit que c'était pas vrai, c'est pour de faux. On va reparler de comment on fait les bébés, comment on fait l'amour, comment un homme et une femme font l'amour, mais ce que tu as vu, c'est pas la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Je pense que ça l'a tout de suite fait redescendre parce qu'elle m'a dit « Ah bah je préfère parce que c'est vraiment horrible. » Donc c'est là où on a pu aller un peu plus loin sur qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ces images. Est-ce que tu veux en parler? Et c'était bah, « C'est dégoûtant, j'ai trouvé ça horrible, j'ai pas compris ce qui se passait. » Ce qui revenait le plus, c'était « C'est dégoûtant. » Je sais pas aujourd'hui vraiment où elle en est par rapport à ça. Alors on en parle, hein, mais on reparle pas de cet incident-là. Elle a pas trop envie d'en reparler. On en a reparlé dans les semaines qu'on suivit plusieurs fois pour essayer de, voilà, que ça sorte et que, voilà, qu'on passe à autre chose sur ce terrain-là. Et puis après, elle a plus voulu en parler, par contre. Si je lui dis,
elle a quel âge aujourd'hui?
Elle a 12 ans. À 10 ans, je lui avais dit, est-ce que tu veux qu'on reparle de ce que tu avais vu des images? Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Elle était plus dans le rejet. Ce qui était le cas de sa copine qui, elle, alors elle a fait un total blocage. Sa mère n'a jamais pu en parler. Alors, on n'en a pas reparlé dernièrement, donc je ne sais pas si elle a fini par réussir, peut-être un peu plus tard, mais dans l'année qui a suivi, en tout cas, sa fille, alors elle a complètement bloqué. Elle ne voulait pas en parler. Alors, au départ, par peur de se faire disputer, et on a eu beau leur dire, c'est notre faute, on n'aurait pas dû vous laisser cet accès-là, c'est la faute de ce qu'il y a sur Internet, c'est Vous n'avez pas fait une bêtise. Vous avez voulu avoir des réponses, on vous a donné de mauvaises réponses, mais vous n'avez pas fait de bêtise. Donc on n'est pas là pour vous punir, interdire tout écran à vie, voilà, c'était pas la question. C'est un peu le problème, je pense, des images pornographiques comme ça en accès libre, c'est que, comme vous parliez d'échecs, je pense que on se sent quand même coupable de quelque chose. Donc il y a la culpabilité d'avoir laissé nos enfants être confrontés à ça. Donc c'est vrai que en tant que c'est ma copine l'autre, hein, on en a parlé une ou deux fois, trois fois après parce que bon on était sous le choc, etc. Mais après on en a pas reparlé. Donc il y a aussi de ça, c'est-à-dire que on se cache derrière nos propres peurs, nos propres échecs, nos propres culpabilités. Et je pense que la société, de façon générale, se cache derrière ça, puisqu'on laisse, on parle depuis des années d'interdire les films porno aux enfants de moins de 18 ans, alors que tout le monde sait qu'il suffit d'un clic, il suffit de dire oui, j'ai 18 ans pour y avoir accès. Donc voilà, ça a toujours pas été mis en place. Et de la responsabilité des parents, et de la responsabilité de l'État. Je pense qu'il y a une responsabilité commune, en tout cas des adultes, hein, face à la sexualité de nos enfants aussi, juste de qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que le questionnement sur la sexualité par les enfants.
Après en avoir parlé avec Anna, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour que ça se reproduise pas?
Bah ça a été un petit peu radical, hein, c'est-à-dire que ça a été plus d'écran hors notre surveillance, voilà.
parce que sur les contrôles parentaux, j'en parle avec une autre copine avec qui j'ai plus parlé de ça qu'avec l'autre, qui me disait, écoute, moi j'ai mis tous les contrôles parentaux sur l'iPad de mon fils, il les a tous craqués. À cet âge-là, on parle à 8 ans, c'était au même moment. Du coup, à chaque fois que je mets des contrôles, il les craque, je ne sais pas comment il fait, comment on va. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va pas faire les contrôles parentaux, on va juste lui donner pas de tablette en accès libre. Et si elle regarde une tablette ou les téléphones, elle n'en regardait pas jusqu'à il y a très peu, puisqu'elle n'avait pas de téléphone et on ne lui donnait pas les nôtres. C'est toujours à côté de nous, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, elle a un téléphone et là, il y a des contrôles, puisqu'elle ne peut pas choisir ce qu'elle veut sans l'accord de son père qui a l'abonnement. Donc, elle est contrôlée. Et j'avoue que je vérifie. Je regarde les historiques et qu'il n'y a rien. Voilà. Alors après, elle peut les enlever, elle peut effacer. On était déjà très sérieux, c'est ça le problème. C'est qu'il suffit d'une fois. C'est pour ça que ce n'est pas si simple. Mais on a été encore plus sérieux. Ce qu'elle a vu,
Ça l'a calmée.
Ça l'a calmée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire des recherches sur le sujet. Ça va venir, hein. Elle a 12 ans, donc je pense qu'on est sur le moment où ça va revenir. Et que ça sera compliqué d'éviter qu'elle les voit, puisque de toute façon, il n'y a pas que son téléphone à elle, il n'y a pas que nos écrans à nous. On sait très bien que les autres ont aussi des téléphones, que les autres enfants n'ont pas forcément de contrôle parentaux, et qu'elle peut très bien regarder ça avec un copain en mangeant entre midi et deux. Voilà. Donc,
Est-ce qu'elle a accepté facilement le fait qu'elle puisse plus regarder comme ça?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est... Souvent, elle demande, elle dit, moi, j'aimerais faire une recherche, notamment, elle veut un chien. Et je veux juste faire une recherche sur les chiens. Ok, bon, mais je reste à côté. Elle a envie de chercher, elle a envie de regarder. Enfin, c'est tellement énorme, Internet, c'est tellement génial, on peut regarder tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Elle est intéressée par ça. Après, elle regarde des choses. Hein. On ne lui a pas tout interdit. C'est de toute façon impossible. Donc, elle regarde beaucoup de bêtises. Mais elle ne regarde pas de pornographie. Mais elle regarde d'autres bêtises. Hein.
Elle sait que vous regardez l'historique?
Bah non, parce que si elle sait... Alors après, moi, c'est un truc qui est très désagréable pour moi. Parce que alors vraiment, je trouve que mon père lisait mes cartes postales quand j'étais petite et ça me rendait dingue. Et ma mère disait, mais non, on ne lit pas, on ne regarde rien de l'intimité de ses enfants. Donc j'avais des parents à deux opposés. Et j'étais plus dans la tendance de ma mère à dire, bon, bah, on ne rentre pas dans l'intimité des enfants. Sauf qu'on a un risque, donc c'est compliqué.
Maintenant qu'elle a 12 ans, Anna, qu'elle est en pleine adolescence, est-ce que vous parlez de sexualité avec elle?
Oui, elle aime de moins en moins, évidemment. Parce que c'est un âge où, ça y est, ça commence à être énervant que ça soit sa mère qui veuille parler de ça. Mais on continue à en parler. En tout cas, bon, moi, je suis très, très attentive à ce qu'elle ne soit pas victime. Parce qu'elle en a aussi un peu tous les comportements qui pourraient attirer un pervers quelconque. Donc, bon, je suis très attentive à son comportement et pas à son comportement, d'ailleurs plutôt à comment se comportent les autres avec elle et essayer de pouvoir lire le danger. On parle surtout de ça. On parle surtout du rapport au consentement, du rapport à qui a droit de faire quoi, qui a droit de toucher mon corps ou non, quand est-ce que je dois dire non, quand est-ce que je dois m'en aller. Voilà, on est plus sur... Là-dessus, on en parle et ça, elle veut bien en parler.
Merci beaucoup Laetitia. Je vous propose qu'on rejoigne Thomas Romer. Bonjour Thomas, vous êtes spécialiste en protection de l'enfance et numérique, membre du comité d'experts jeunes publics de l'ARCOM, donc qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Vous êtes secrétaire général du COFRAD, c'est-à-dire le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Vous travaillez depuis plus de 15 ans maintenant sur ces problématiques et vous avez créé, il y a 15 ans, la première opération de sensibilisation au sein des collèges et des lycées français qui a permis de sensibiliser plus de 4 millions d'élèves et plus de 700 000 adultes partout en France pendant 12 ans. Vous avez également fondé l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique que vous dirigez aujourd'hui. Thomas, quelle est votre réaction à l'écoute du témoignage de Laetitia ?
Bah, malheureusement pas surpris, parce que c'est des choses qu'on observe depuis longtemps, avec une montée en puissance hein, de l'accès des jeunes, des enfants même, à ces contenus qui ne leur sont pas destinés. Après, j'ai été très touché par son témoignage, parce que je trouve que symboliquement, ça représente un petit peu l'état de sidération, mais aussi de difficulté que rencontrent tous les parents. Laetitia l'a dit, on s'imagine toujours... que ça concerne les autres, que ça n'arrivera pas aux nôtres, qu'après tout, on gère bien les choses. Et c'est vrai, de toute façon, dans... même si vous n'y êtes pas pour grand-chose, c'est comme ça que fonctionne Internet aujourd'hui, et c'est un petit peu l'objet, nous, de notre combat. C'est-à-dire que ça fait maintenant 10 ans, moi, depuis que j'ai fondé l'Open, que je me bats non pas pour symboliquement s'attaquer à la pornographie, c'est pas le sujet, enfin, en tout cas, je suis pas un anti-porno, c'est juste remettre de la cohérence éducative, c'est-à-dire que je trouve assez désolant, assez navrant et quelque part très contradictoire en termes de construction d'une société, de voir qu'un monsieur qui vend des journaux dans une gare et qui se tromperait le matin parce qu'il n'est pas réveillé et qui mettrait à la place des Voici et autres magazines People les hautes vidéos, lui, il risque de partir en prison et d'avoir une amende. Et de voir que depuis que YouPorn existe, c'est-à-dire 2006, 18 ans, on parle de quasiment une génération entière, on se contrefout complètement que des gamins de... parce qu'il y en a des bien plus jeunes, malheureusement, de 5 ans, en tout cas, nous, le plus jeune, c'était 5 ans, puissent avoir accès à ces contenus. L'idée, c'est aussi de se dire, à un moment, bah, qu'est-ce qu'on veut construire comme société, qu'est-ce qu'on veut symboliquement renvoyer comme message aux jeunes. Je pense que le rôle d'une société responsable et adulte, c'est aussi de marquer des lignes jaunes. Les lignes jaunes, elles existent dans la loi, mais elles ne sont pas respectées par ces plateformes qui piétinent les textes de protection de l'enfance de tous les pays dans lesquels ils diffusent leur contenu. Donc c'est un peu l'enjeu. Il y a un enjeu politique, mais aussi d'une vision d'une société. Et alors, quand on touche à ça, étant donné que ces plateformes sont essentiellement... on a aussi eu un changement énorme de paradigme dans la manière dont on peut avoir accès à cette pornographie. Moi, quand j'étais môme, j'avais accès à la pornographie comment ? Le film du samedi soir sur Canal, encrypté, avec le magnétoscope qui tournait dans le salon, parce que la télé, elle faisait 80 kilos, donc on partait pas comme maintenant avec dans sa chambre, hein. Ça change pas mal les choses. Et on y avait accès sur les magazines spécialisés qui circulaient sous le manteau et dont on savait qu'il y avait un grand-oncle ou un grand-père qui avait 2-3 magazines qui traînaient quelque part. Mais symboliquement, on était aussi, me semble-t-il, dans une logique de construction adolescente. C'est-à-dire qu'on sait tous et toutes qu'au cœur de la construction adolescente, on est génétiquement programmé pour franchir la ligne jaune. Donc c'était pas la même chose. Là, ce qui change énormément les choses, c'est justement le fait qu'on puisse y avoir accès très facilement, et on voit très clairement d'ailleurs un lien de corrélation évident entre le rajeunissement permanent du premier accès aux smartphones et aux outils numériques en France avec le premier accès à ces contenus, et aussi le fait que potentiellement dans l'image qu'on peut renvoyer sociétalement, on en voit plutôt l'image qu'on s'en fout, quoi. Ça fait 18 ans quand même. 18 ans que YouPorn existe. Et ils se cachent pas pendant ce temps-là, eux, de cibler les gamins. Enfin, ils le disent, hein, dans toute leur communication.
Oui, les enfants sont des futurs consommateurs.
Même des actuels. C'est bien le problème. Et on s'en contrefiche. Alors derrière tout ça, il y a évidemment, comme vous le disiez, des enjeux politiques. Mais on voit bien que le politique là-dessus... derrière le politique, il y a des êtres humains, avec toutes les contradictions et les turpitudes que ça peut évidemment engendrer. Et symboliquement, moi, ce que je note aussi, c'est qu'il est assez intéressant de voir que les choses ont commencé à bouger en 2016, quand j'ai rencontré Laurence Rossignol, quand elle était ministre Droits des Femmes, Protection de l'Enfance et Famille, et qui m'avait confié une mission, parce que j'avais réussi à un peu à convaincre son cabinet qu'il était peut-être temps d'agir, parce que pendant très longtemps, dans l'inconscient collectif, réguler ces contenus, c'était quelque part à la fois, il y avait un côté très moralisateur, donc moraliser l'espace public, et à cela se rajoutait aussi tous ceux qui continuent, me semble-t-il, en tout cas dans mon analyse des choses, assez naïvement à penser qu'Internet est un espace de liberté. Ça, c'est aussi les contre-discours qu'on entend. C'est oui, on ne régule pas Internet parce que c'est le dernier espace de liberté qu'on a. Moi, je veux bien, mais un espace de liberté qui est dirigé par 5 boîtes dans le monde, j'appelle pas ça un espace de liberté. Tout ça est à la croisée d'énormément de choses. Et j'avoue que quand je me suis attaqué à ce sujet, je ne pensais pas qu'il était aussi compliqué d'aborder ces questions en France, dans un pays dont on nous renvoie souvent l'image quand on a la chance de pouvoir voyager un peu, qu'on est un peu libéré, qu'on aborde ces questions, on parle de cul assez facilement. Voilà, les Français, les hommes français jouissent d'une image d'éternel séducteur, les femmes françaises sophistiquées mais un petit peu coquines en même temps. Enfin, toutes ces images d'Épinal qu'on nous renvoie au visage, hein, quand on parcourt un peu la planète. Et alors que, bah, dans les faits, moi, je constate qu'on est un pays ultra réac et très coincé dans la capacité à parler de sexualité sur la place publique sans en faire une caricature ou sans tomber dans une volonté de moraliser ou l'espace public.
Est-ce que, Laetitia, vous avez des questions pour Thomas ?
On en est où ?
Oula ! Bah, c'est compliqué parce que aujourd'hui, alors il y a des lois qui existent dans la plupart des pays qui sont plutôt alignées, hein, c'est-à-dire que de dire que ces images n'ont pas à être accessibles aux enfants. En France, c'est le 227-24 du Code pénal qui existe depuis 40 ans, donc on n'a pas inventé. Et il y a aussi, de par le fait que désormais la pornographie est distribuée par le biais de ces plateformes, ces mastodontes qui génèrent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers le monde. On voit bien que la difficulté, elle est aussi, comme toute plateforme numérique, quelle qu'elle soit, dans la régulation, parce que Internet dépasse et traverse les frontières. Nous, on a travaillé, suite au groupe de travail que nous avait confié Laurence Rossignol après avec le législateur, en 2020, ayant identifié qu'il y avait un trou dans la raquette au niveau du code pénal, on a fait modifier le code pénal avec des députés de l'Assemblée, dans le cadre d'une loi qui date de 2020, qui s'appelle la loi sur les violences conjugales. Et l'idée, ça a été tout simplement de rajouter quelques petites lignes dans le code pénal, parce que pour que toutes les personnes qui nous écoutent comprennent, jusqu'alors les sites pornographiques se réfugiaient derrière une jurisprudence qui leur donnait raison, à savoir que le simple fait de mettre ce qu'on appelle un disclaimer, c'est-à-dire les panneaux qui figurent sur la plupart d'entre eux, on doit cliquer juste « j'ai plus ou moins de 18 ans », était une raison suffisante pour dire qu'il respectait le code pénal français. Parce que le code pénal français, il est très clair, il dit, et ça c'est important de le dire aux personnes qui nous écoutent, parce que j'entends parfois beaucoup de contradictions là-dessus, le code pénal, il dit pas que les enfants, quand ils tombent sur ces contenus, ils sont en train de commettre quelque chose d'illégal. Il dit exactement l'inverse. Il dit que c'est le fait de mettre à disposition ces contenus, sous-entendu la responsabilité des adultes, que nous sommes toutes et tous, qui est en soi quelque chose d'illégal. Et donc, derrière tout ça, en fait, la jurisprudence française leur donnait raison à cette plateforme grâce à ces fameux disclaimers, ce qui est en soi une aberration totale, puisque dans la plupart des cas, on peut même pas cliquer sur « j'ai moins de 18 ans hein, », le truc est bloqué, donc ils se moquent bien du monde. Et donc, nous, on a simplement, après avoir réfléchi à l'époque avec plusieurs ministres, etc., on a simplement fait changer trois lignes qui disaient aujourd'hui, c'est plus une condition suffisante et on n'est volontairement pas allé au-delà. Et ce qui, moi, me convenait, parce qu'en fait, en y réfléchissant bien, je vois pas pourquoi c'était à l'État français ni aux contribuables français d'aller trouver des solutions techniques ou quelles qu'elles soient, face à des plateformes qui, elles-mêmes, ont décidé de franchir la ligne jaune. Et en fait, en mettant ces simples lignes, on leur disait, débrouillez-vous. De toute façon, aujourd'hui, à partir du moment où vous ne respectez pas la loi française, vous n'avez donc pas à faire commerce de ces images. À vous de faire le job.
Là, il y avait vraiment une idée de responsabiliser, finalement, l'industrie. Alors, peut-être
alors,
au sens
responsabiliser, mais... je ne suis pas tellement naïf. On parle quand même... C'est important aussi d'apporter un petit peu de nuance dans cette industrie. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui sont des vrais salopards, qui sont limite dans du trafic d'êtres humains, etc., etc., du pillage d'images. Il y a énormément de problématiques de droits d'auteur sur ces sites, etc. Et bien, il y a des gens qui cherchent à un peu à l'ancienne, à faire ce qui a toujours existé. C'est une industrie qui a toujours existé, à essayer de mettre un peu d'éthique dans tout ça et de respecter les lois, de respecter le consentement des actrices et des acteurs, etc. Donc, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac, même si, évidemment, ce n'est pas le porno un peu chicos sur lequel nos enfants tombent. C'est bien le porno, aujourd'hui, ce qu'on appelle mainstream, qui est diffusé par toutes ces plateformes. J'ai jamais été naïf quant au fait de les responsabiliser. Pour autant, l'idée, c'était surtout moi, l'idée première, c'était vraiment de dire, mais bon sang, c'est quand même pas à l'État français. Enfin, si on raisonne à l'inverse, est-ce que quand un État met en place des lois pour protéger les gens, par exemple, pour le code de la route, est-ce que quand l'État a inventé l'obligation de mettre une ceinture de sécurité à l'arrière des véhicules, est-ce que les constructeurs automobiles sont allés frapper à la porte de l'État français pour leur dire « Coucou, oui, ok, on veut bien appliquer la loi, mais il faudrait que vous nous expliquiez les mesures techniques qui vont permettre à la ceinture de se bloquer quand on appuie sur la pédale de frein ?» On n'a jamais vu ça. Donc, à un moment, c'est quand même à eux de faire le boulot C'est eux qui ont décidé de franchir la ligne jaune et c'est pas à nous de leur dire comment le faire. Ils ont une obligation, pour moi, de résultat et non pas de moyens.
Mais du coup, est-ce que ça a fait bouger les choses ?
Suite à la passation de ce texte de loi, on a saisi l'ARCOM pour réclamer le blocage. Ça a été beaucoup évoqué dans la presse et les médias. En fin 2020, pour réclamer le blocage des 5 plus grosses plateformes pornographiques mondiales. Et là, on est rentré dans ce qui caractérise aussi notre joli pays. Et Laetitia étant avocate, c'est pas elle que je vais lui apprendre. Les aléas de notre belle et jolie justice, où on est tombé sur des magistrats qui visiblement étaient sacrément emmerdés d'avoir ce dossier sur la table et qui ont quelque part un peu eu la main qui a tremblé. C'est-à-dire qu'en première décision de justice, on a eu une médiation. Donc on a une demande de médiation entre l'ARCOM, autorité de régulation dont le seul objectif est de faire appliquer la loi, et les sites porno. Comme je m'amuse à le dire souvent dans la presse, si on faisait ça dans tous les commissariats de France et de Navarre, les commissaires de police seraient quand même très embêtés. En arrêtant un dealer, on va mettre en place une médiation. Hein. Tu devrais plus ou moins couper ta drogue,
comment
mettre ça dedans.
Faire.
Voilà, tiens, on va réfléchir au réseau de distribution. Tout va bien. Donc là, première surprise à notre niveau. La médiation a évidemment échoué. Donc ça voulait dire qu'on allait repartir devant le tribunal, ce qui a été fait. Et donc ça, c'était septembre 2022. Début 2023, la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction française, qui sent bien que ses petits collègues du tribunal judiciaire de Paris ont la main qui est un peu en train de trembler, rend un arrêt on ne peut plus clair, qui dit « La loi française est très claire, elle s'applique et elle évite le risque de l'arbitraire ». Donc c'est un arrêt on ne peut plus clair, sous-entendu, si je cherche à décrypter pour les gens qui nous écoutent, c'est « La loi est bien fichue ». Allez-y les gars, n'ayez pas la main qui tremble, tout est clair, net, précis. Faites-la appliquer. Donc ça c'était en janvier 2023, et là, aux grandes surprises, février 2023, on a un ministre, en l'occurrence celui plutôt dont la mission est de créer des startups, ministre du numérique, qui s'empare du sujet, et qui dit, ça va pas assez vite, vous allez voir ce que vous allez voir. En septembre, les petits-enfants français n'auront plus accès au porno parce que moi, je suis là, je connais, je sais tout mieux que tout le monde. On va changer la loi, etc. Ça va pas assez vite. Il s'est passé, évidemment, c'était une aubaine pour les magistrats qui, du coup, en juillet, ont dit « sursis à statuer, on prend pas de décision ». Puisque l'état, enfin l'environnement juridique et judiciaire est incertain en France, ne permet pas aux plateformes de faire commerce en respectant la loi. Bon, alors il n'y avait pas que ça, il y avait aussi une saisine du Conseil d'État, mais globalement c'était écrit en toutes lettres dans l'arrêt, en tout cas du tribunal judiciaire, dans la décision, et donc on en est là. Alors depuis, nous on a eu de cesse de dénoncer avec le COFRAD, qui regroupe 53 associations de protection de l'enfance, on a eu de cesse de dire, mais de vouloir expliquer au ministre qu'il était se tromper, que le texte était mal ficelé, qu'il était en train d'inverser la responsabilité qui incombait aux plateformes en la faisant glisser d'une obligation de résultat à une simple obligation de moyens. La vérification d'âge qui était quand même au cœur de son dispositif parce que la volonté du ministre, et on peut l'entendre, c'était de dire, bon, faut qu'on trouve un système de vérification d'âge qui soit efficace, mais qui en même temps garantisse l'anonymat des personnes parce que on veut pas qu'il y ait de collecte de données au niveau de ces sites pour s'assurer de la majorité. Et là, moi, j'avoue qu'on est sur un sujet qui me dérange. C'est-à-dire que quand on raisonne en termes de protection de l'enfance, je suis désolé.
Ça passe avant.
Bah oui. Et je trouve qu'on est quand même un peu en train de réinverser les choses en se disant, en sacrifiant, comme je le dis souvent, un peu la protection de l'enfance sur l'autel de la protection des données personnelles. Ça ne choque absolument personne en France que lorsqu'on se crée un compte, je fais un parallèle avec une activité qui est exactement la même que la pornographie en termes de régulation et de réglementation, les jeux d'argent en ligne. C'est exactement la même chose. Légale, comme la pornographie, mais interdite d'accès aux mineurs. Exactement la même chose. Quand vous créez un compte sur le site de la Française des Jeux, au bout du deuxième écran, on vous demande quoi ? Votre permis de conduire, votre carte d'identité ou votre passeport. Et là, tout le monde trouve ça normal. Et on voit bien que derrière la pornographie, de par le fait qu'on touche à la sexualité, que c'est un sujet qui est au cœur de l'intime, ça embête beaucoup de personnes de devoir montrer patte blanche. Et je trouve que là, on est au cœur d'une vraie contrainte, d'un vrai débat de société, qui, moi, me dérange profondément, parce qu'à un moment, tous les gens qui rentrent dans des sex shops, ils y vont pas avec une cagoule, un casque sur la tête, on assume. Bon, bah, je vois pas pourquoi on n'assumerait pas de regarder du porno. Après tout, c'est quelque chose de légal. On sait, tous les chiffres montrent que la plupart des adultes en regardent. Donc arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt. Après ça, qu'on dise que ça dérange que ces sites collectent des données, je peux l'entendre. Mais d'entendre que même la carte bleue, qui pourrait être un système de protection, puisque les mineurs n'ont pas accès à une carte de crédit en France... Ça, on nous le refuse. La CNIL a rendu des avis très contradictoires en changeant en permanence d'avis. Et donc, on voit bien qu'on est quand même dans un système qui est complètement hypocrite, avec à la fois un politique qui ne sait pas comment prendre le truc, qui, du coup, pour briller, comme le font pas mal de ministres, et être reçu sur tous les plateaux télé, est prêt à toutes les contradictions, jusqu'à celle de, d'ailleurs d'avoir reçu les sites pornographiques, mais pas nous autres associations, hein, parce que ça... Voilà. Et quand moi je me retrouve sur le plateau d'Élise Lucet pendant l'émission Cache Investigation, que je m'emplafonne un peu le ministre, bah, le ministre part du plateau sans me dire au revoir, parce qu'on ne peut plus dire en 2023, dans un pays comme la France, monsieur le ministre, vous êtes en train de vous tromper. Voilà. C'est pas simple.
Il reste encore beaucoup à faire.
Exactement.
Un très grand merci Laetitia d'être venue partager avec nous cette malheureuse expérience d'Anna, mais surtout comment vous avez réussi à l'accompagner. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Dans la deuxième partie de cet épisode, qui sort la semaine prochaine, je reviens avec Thomas Romer sur comment faire de la prévention auprès des enfants, comment leur parler de la pornographie quand on est parent, les informer sur les dangers qu'elle représente pour eux, les enjeux psychiques pour le développement des enfants et des adolescents, et puis quels outils on peut utiliser pour les protéger. À la semaine prochaine. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.